Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Je suis ravie d'être de retour parce que, bon, j'avoue, j'avais eu des semaines un peu difficiles. Du coup, on a fait de la rediff un petit peu. Mais là, je suis de nouveau dans le studio. Salut Tom en régie. Et pour ce nouvel épisode, j'accueille une artiste avec qui on collabore depuis longtemps déjà chez Lineup et qui s'appelle Noon. Salut.
Salut Laura.
Bienvenue dans Terrain Vague.
Merci.
Merci d'avoir été dispo au débeauté.
Oui, c'est vrai.
C'est cool.
Je ne te refuse rien.
Oh là 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 là, j'adore. Bon, bah du coup, on va suivre un petit peu la trame que j'ai avec les artistes, parce que moi, j'aime toujours savoir d'où vous venez, ce que vous faites, ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé là, quelles sont vos inspirations, etc. Donc, on va revenir sur ton parcours. Il y aura un petit interlude musical de mon choix, n'est-ce pas? Et puis après, on parlera de quelques projets que tu as fait avec Lineup, des projets, on va dire, significatifs. Mmh. Et on parlera de ça, quoi. Parle-nous de toi.
Alors, par où commencer? Je vais repartir du début.
Du début, voilà.
Une adolescence à Paris. Ouais. Et j'ai quitté Paris pour rejoindre le Sud, où j'ai fait les Beaux-Arts. Okay. De Montpellier, en cursus pendant 4 ans. Mmh. Et j'ai eu mon diplôme, diplôme national d'enseignement d'art plastique. Ouais. Et en fait, au bout de 4 ans, je suis partie. Je pense que je n'avais pas la maturité pour m'assumer en tant qu'artiste.
Parce que du coup, tu as commencé direct après le bac.
Oui, après le bac, directement, je suis rentrée aux Beaux-Arts. Après, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine maturité. Mmh. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, mais je ne m'y retrouvais pas. Et j'avais du mal à concevoir qu'on puisse peut-être un jour gagner sa vie en étant artiste.
Bah. Tu avais quel âge?
J'avais 24 ans.
24 ans, ouais.
Voilà. Et en fait, je suis. Donc, j'ai été graphiste freelance.
OK.
À mon compte. Mm-hmm. En même temps, je suis devenue maman. Donc, ça a fait une sorte de double casquette. Et j'ai toujours continué à exposer. En fait, j'ai toujours exposé. J'ai toujours eu une création artistique. Je suis passée par du textile, du tissu, de la peinture. Au Beaux-Arts, je travaillais beaucoup la peinture à l'huile, l'art abstrait. Après un cursus de graphiste. J'ai travaillé aussi dans l'événementiel de la décoration et puis j'ai créé ma marque de vêtements, de bijoux, et toujours en continuant à exposer, à avoir un travail d'illustration, de toile. Et puis il y a maintenant 10 ans, je suis allée dans la rue.
Ouais.
Voilà. Après, j'aime pas m'enfermer dans un seul médium. Je crois que je m'ennuierais si je devais rester dans un atelier à peindre ou à faire de l'art digital.
On va y revenir après.
Et du coup, depuis 10 ans, en fait, je suis allée dans la rue. J'ai commencé par le collage, mm-hmm. parce que j'avais un travail assez minutieux qui prenait beaucoup de temps. Puis moi, je suis pas du tout issue de l'univers du graffiti. Donc j'ai un cursus plus d'art plastique. Mm-hmm. Moi, je me considère plus comme plasticienne. Mais d'aller dans l'art urbain m'a fait beaucoup de bien, m'a apporté beaucoup de légèreté, car j'avais pas envie d'intellectualiser mon travail. Et ça m'a libérée, en fait. J'ai du mal à l'exprimer, mais j'avais une grande liberté. Et comme mon travail, il est beaucoup basé sur la couleur, sur la forme, j'avais pas forcément envie de me justifier tout le temps.
Ouais. Et le fait d'aller dans la rue, déjà, est-ce que tu te sentais un peu plus à ta place, un peu plus légitime, à te dire peut-être qu'en fait
au début,
je peux le faire, quoi?
Voilà, au début pas trop, et puis mais en fait je me suis vraiment régalée, pas sur le fait que c'était interdit, parce que moi c'était du collage, donc je prenais pas d'énormes risques, mais en fait j'ai surtout vu l'espace urbain différemment, de choisir les murs. Après, toujours en respectant, c'est vrai que j'avais pas je suis pas dans un esprit de vandale forcément, mais c'était super agréable de trouver un lieu, de préparer l'œuvre en atelier et après d'aller la coller.
Et je reviens juste sur au tout début, tu t'es installée à Montpellier du coup pour faire tes études, pourquoi ce choix?
En fait, j'ai choisi d'aller à Montpellier parce que j'ai adoré la ville.
Ah d'accord, ok.
Et j'ai aimé le fait que ça soit une ville à échelle humaine par rapport à Paris.
Ouais.
Mais je me rends compte que mes années d'adolescence et de musée et de balades dans Paris, je me suis vraiment régalée. Mais en fait, je ne suis pas vraiment attirée par les villes en général.
Mm-hmm.
Et donc du coup, à Montpellier, j'adorais le fait que ça soit piéton, qu'il y ait une autre atmosphère qu'une vie parisienne.
Oui, qui va à 1000 à l'heure.
À 1000 à l'heure, de transport en commun.
Ouais. T'as trouvé plus.
Même ici, je prends pas le tramway.
Tu prends plus.
J'ai pris deux fois.
Ouais.
Donc je connais pas les lignes. Faut pas me demander. Je me déplace à pied et en vélo.
Tu seras pas ambassadrice de la dame.
Non, c'est raté.
Du coup, t'as commencé donc dans la rue avec du collage.
Oui.
Que tu continues en fait à faire de temps en temps.
Oui, de temps en temps. Alors maintenant, j'ai moins le temps, mais en fait, il faudrait que j'y revienne parce que je me régale.
Ouais.
Et puis des fois sur des lieux un peu abandonnés que je repère.
Ouais.
Des fois, il y a des personnes qui me suivent et qui me disent « Tiens, j'ai vu un mur où tu pourras aller peindre. » Genre, on m'en a envoyé un récemment près de 7. Et ça, j'aime bien, pour le plaisir d'aller passer l'après-midi.
Oui, c'est pour toi, quoi.
Juste pour le plaisir.
Ouais. Et justement, quel est ce rapport que tu as avec l'architecture? Puisque tu dis que tu choisis les murs où tu vas mettre tes collages. Enfin, c'est pas juste...
Non, en fait, ça va être parce que pour moi, ça va être graphique, ça va être esthétique. Il va y avoir une belle image à faire aussi, avec peut-être la lumière. Des fois, si t'as un ciel, tu sais, quand tu vas venir, qu'il va y avoir un ciel avec des nuages de dingue, tu vas faire des photos et tout ça, ça va être en complément pour faire vibrer aussi les couleurs. Et puis des fois, le mur que tu choisis, ça m'est arrivé de choisir des murs où en fait la couleur ne ressortait pas par rapport à ce que j'avais peint.
Et est-ce que c'est le mur qui inspire l'œuvre que tu vas faire ou est-ce que tu as déjà une idée de l'œuvre et après...
Non, j'ai déjà une idée de l'œuvre en fait, mais c'est vrai que je vais adapter s'il y a 2 mètres par 3, je vais adapter la taille de l'œuvre, mais je ne m'enferme pas par rapport à ça. Non, en fait, c'est vrai, c'est pas... Non, pas vraiment, c'est juste, j'utilise l'espace urbain un peu comme support. Qui va être une complémentarité en fait au collage. Puis maintenant j'ai évolué. Avant j'avais un travail très symétrique.
Ouais.
Et depuis 2020 je me suis libérée et je fais un travail plus asymétrique. Et donc du coup je fais des compositions, je fais moins des médaillons. Donc ça prend plus de temps. Et c'est vrai que il faut que j'y revienne. Faut que je repère des lieux.
Oui, pour d'aller dans la rue.
Ouais.
C'est vrai que quand moi je suis arrivée chez Line Up, c'était 2020 du coup, janvier 2020, ce que j'ai vu, les photos d'œuvres que tu avais faites pour la com, etc., c'était hyper ethnique.
Oui.
En fait, par rapport à aujourd'hui.
Si je montrais le travail que je faisais quand j'avais 19-20 ans, et quand on voit maintenant, c'était un travail hyper brut. Après, à 16 ans, j'ai découvert Basquiat, j'ai eu une vraie révélation.
Mm-hmm.
Mais en fait, j'ai toujours mélangé l'art décoratif et le côté un peu ethnique. Et en même temps, quand on voit l'histoire des arts décoratifs, souvent, ils s'inspiraient de l'Égypte, de tout ce qui était oriental. Et on peut vraiment, quand on feuillette des bouquins... revoir des petites touches comme ça dans leur inspiration dans les années 30, dans les années 20. Et c'est vrai que c'était plus ethnique. Mais de toute façon, en même temps, le travail, je pense, d'un artiste, on évolue toute sa vie.
Oui, complètement.
On se remet. Et puis même, moi, j'essaye souvent de me remettre beaucoup en question, tout le temps.
Et de
me réinventer.
Oui,
en fait, quand on dit qu'il y a des grands artistes qui avaient des périodes, en fait, je pense que on doit tous passer par là.
Ouais, bien sûr.
Puisqu'on peut s'ennuyer.
Ouais, puis ne serait-ce que la maturité, en fait, ce que tu faisais à 20 ans, aujourd'hui, forcément, tu.
Oui, maintenant, j'ai du recul, l'évolution du travail, et puis les technologies et tout ce qu'on peut faire maintenant. Mais oui, c'est vrai. En fait, quand on est plus jeune, on s'en rend pas compte. Des fois, on est enfermé dans quelque chose.
Ouais.
On progresse. Et puis, on évolue. Puis moi, m'enfermer, j'aime bien être multitâche, essayer beaucoup de choses, en fait.
Ouais.
La rue, par exemple, c'était un médium de plus. C'était bien d'expérimenter. Je trouve que c'est hyper important.
Ça te fait bosser, puis ça te fait évoluer justement dans ta pratique.
Ouais. Non, parce que des fois, quand on échange avec des artistes qui vont peindre que en atelier, en fait, moi, je me rends compte que je m'ennuierais. J'aime bien, puis j'adore aussi changer d'échelle. Faire une illustration, là, je travaille sur une illustration numérique sur ma tablette. Et en même temps, le dernier mur que j'ai fait, c'est génial de changer d'échelle et de travailler avec son corps aussi. Quoi.
Et tu disais que tu travaillais sur des médiums très différents. Je sais que tu travailles avec des papiers.
Oui,
tu fais
papier découpé.
Tu as travaillé sur du textile.
Oui. Ça, c'est ce que j'adore faire.
Ça, c'est très
J'aimerais
chouette.
Le refaire.
Là, j'ai on lance un appel si jamais il y a
voilà, des marques. Voilà, ouais, ça, c'est vraiment l'impression textile. Enfin, c'est ce que je voulais faire. J'ai failli partir à Montréal faire une école, mais ça coûtait trop cher à l'époque. Et comme j'étais maman, je ne pouvais pas le faire. Mais oui, il y a l'impression textile, il y a le papier découpé.
Ouais.
Et puis là, récemment, j'ai travaillé en collaboration avec un atelier de tisserand
ouais.
Au Cachemire sur de la broderie, soie et coton.
C'était trop beau.
Et ce qui était génial, c'est que, alors évidemment, c'était par l'intermédiaire d'une personne qui connaissait la famille et du coup, ils ont fabriqué les couleurs. Donc, ça a été un échange, ça a été une vraie collaboration parce que moi, je ne les ai pas rencontrés, c'était juste sur des discussions
okay.
WhatsApp et donc j'ai dû envoyer mes couleurs et ils les ont vraiment interprétées à merveille. Et ça je me suis régalée. Le textile, j'adore.
Et c'est, par exemple, pour venir au tissage,
ouais.
L'œuvre que tu as fait, qui a été faite en soie,
ouais.
C'est quelque chose que tu as envie de développer
ouais.
Parce
oui,
que c'est après... pas du textile, du coup, là, ça fait vraiment comme une œuvre tissée que
oui,
tu
voilà.
mettrais chez toi.
Parce qu'avant, c'est vrai, il y a quelques années, c'était en 2008, non, 2006, j'avais fait une exposition à la Galerie Saint-Ravi où je présentais, en fait, tout un travail sur la mémoire, c'est-à-dire que j'imprimais des images anciennes de ma famille sur du tissu et mmh. des tissus anciens et je coloriais à la machine à coudre.
Donc, ah ouais. Voilà.
Donc il n'y a plus beaucoup de traces, hein, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà.
T'en as pas fait des photos ?
J'ai quelques photos. Si, il reste quelques pièces. Mais en plus, comme des fois, je dénigre un peu mon travail, je pense que j'en ai jeté beaucoup.
Et puis
à cette époque-là, une femme qui faisait en 2006 du textile, c'était mal vu. Maintenant, ça me fait plaisir parce que beaucoup d'artistes travaillent le tissu et le fil.
Mm-hmm.
Mais là, la broderie, c'était différent. C'est vraiment une collaboration. Et clairement, moi, à l'heure actuelle et en France, je ne pourrais pas faire tisser ce que j'ai fait tisser là. Voilà, c'est vraiment un travail. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent faire tous les formats et j'espère avoir des projets ou des clients à qui je vais pouvoir proposer.
C'est quoi qui t'a plu dans le... Par exemple, je pense à la collection capsule que tu as fait pour je sais plus quelle
marque. Pour One Step.
Pour One Step, ouais. Qu'est-ce qui... Hormis le fait d'avoir ton design, tes motifs, etc. sur des fringues, c'est quoi qui t'a plu particulièrement dans le côté textile?
Mais en fait, ce que j'aime le textile, c'est le son du textile, c'est, je sais pas...
La matière.
La douceur, la matière, j'aime comme ça feutre. J'ai toujours aimé le tissu, même chez moi, dans un intérieur, je trouve que le tissu, c'est quelque chose d'enveloppant, de chaleureux. Et puis, le fait de créer ton visuel et à partir d'un tissu, recréer encore un blouson, une chemise,
ouais, ouais.
un t-shirt, je trouve ça assez fou. Et j'aime mélanger le fait, c'est un peu désacraliser le travail aussi, le côté artisanat de la couture.
Ouais.
Et puis, de ne pas mettre sur un piédestal le travail d'un artiste. J'aime bien le côté artisanat.
Ouais, revenir à...
Comme j'aime la céramique
ouais.
pendant longtemps. Maintenant, c'est quand même la grosse mode. Mais il n'y a pas
oui,
longtemps, tu faisais de la céramique, c'était ringard. C'était...
Ouais, ouais.
Et moi, ça me fait plaisir parce qu'on peut toucher à plein de médiums.
Et justement, il y a des médiums que tu aimerais
explorer. La céramique, j'en avais fait un temps. Et j'aimerais bien faire des œuvres. Et ce que j'aime dans la céramique, c'est la couleur, en fait, l'émaillage.
Ouais.
Voilà. Et ça, j'aimerais travailler. J'ai fait du tour, mais j'avais pas trop le temps de continuer à apprendre à faire du tour. Mais je vais faire de la plaque et j'ai bien envie de créer à partir de mes œuvres.
C'est un délire, hein, l'émail.
Ouais.
Ça change tellement, en fait, du moment où tu le mets en liquide comme
oui.
ça et où il cuit.
Oui, c'est ça que j'adore.
T'as l'impression que le temps qu'il faut, la gymnastique, la recherche que ça demande.
Oui. Mais des fois, le potier, il a comme un nuancier, donc on sait un petit peu où on va.
Ouais.
Mais c'est vraiment... moi, j'adore. Mais en fait, j'adore parce qu'on travaille avec ses mains, puis c'est créer des objets... Voilà.
Non, c'est juste Tom qui me dit le temps.
Mais non, en fait, là, j'ai bien envie de partir sur de la céramique, mais faire des objets, évidemment, abstraits. Extraire un peu comme j'ai fait des univers déjà avec une sorte de plastiroc et de l'imprimante 3D.
Okay.
J'ai extrait mes formes
ouais.
que j'ai créées dans des univers en 3D. Et comme j'adore les petits arbres,
ouais.
qu'il y a un peu ringard, non, pas vraiment pour les maquettes de train.
Ouais.
Voilà. Et du coup, j'aimerais ramener, comme ce travail en volume que j'ai commencé, j'aimerais le faire, mais de façon encore plus artisanale, vraiment avec de la plaque, de l'émaillage.
Ok, donc pas sur des objets du quotidien ou...
Non, pas forcément, oui, à partir de... Je pourrais créer des vases, des choses comme ça. Mais au final, non, je vais voir vers où ça va m'amener.
Okay.
Vraiment les formes que je vais extraire de mes fresques en fait, et de mes toiles.
Donc les motifs qu'on voit...
Comme j'ai fait sur le papier.
Oui, comme tu as fait
comme
sur le papier.
Comme je m'ennuyais quand je faisais des fresques de faire des toiles. Maintenant, j'arrive à prendre du plaisir à refaire des toiles. Mais j'avais envie d'extraire mes formes de mes grands murs. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je suis partie sur le papier en 3D.
D'accord.
Parce que je trouvais que d'aller du mur à la toile, je ne trouvais pas de sens. Maintenant, j'en ai un peu plus trouvé.
Ouais.
Mais il y a un moment, je ne m'y retrouvais pas, en fait.
Et puis, tu restes sur quelque chose de plat, finalement, que là, avec la découpe papier, c'est comme si ça prenait vie, finalement.
Voilà, et puis je récupère des vieux bouquins, je découpe dans des vieux livres sur de la montagne, avec, j'aime bien la matière de la roche.
Okay.
J'ai fait un peu du doré, parce que j'utilise beaucoup de doré, mais mm-hmm. de la feuille d'or. Et non, ça c'est en fait aller vers plein de sans trop se perdre évidemment.
Ouais, mais continuer à explorer là-dedans.
En
fait.
Oui.
On va faire une petite pause musicale puisqu'on arrive à mi-parcours et je vous propose un morceau qui s'appelle Ride et c'est Christian Curia. À tout de suite. De retour après ce morceau très chill, n'est-ce pas? C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, je voulais revenir avec toi sur quelques projets que tu as menés avec, avec Line-Up. J'ai fait une petite sélection de projets assez variés. On a par exemple la fresque au sol que tu as réalisée dans le cadre de 34 degrés, le festival à Juvignac dont on assurait la direction artistique. C'était la première fois que tu peignais un sol?
Oui, je rêvais de faire un sol.
Ah
ouais, d'accord. D'ailleurs, je lance des appels toujours. J'aimerais faire un terrain de basket ou un skatepark.
Si on nous entend, voilà.
Voilà, c'est un... J'adore...
Un skatepark, ça tirait bien.
Ouais, mais j'adore en fait toujours le fait de désacraliser l'œuvre là.
Ouais.
Ce qui était génial, c'est qu'en fait, on peut marcher sur l'œuvre.
Ah oui, bah ouais.
Souvent, il ne faut pas toucher. Quand on va dans une galerie, dans un musée, c'est normal. Mais là, quand on c'est ça qui est bien dans l'art urbain, c'est qu'en plus, quand on travaille au sol, tout le monde va marcher dessus.
C'est vrai.
Mais c'est, par contre, c'est quand même très... Il y a des contraintes.
Ouais.
C'est hyper physique. Je me souviens, il faisait extrêmement chaud.
Oui.
Et donc, je mettais pas de pantalon. Et le soir, je me rinçais les jambes au White Spirit avant d'aller dans la douche.
Parce qu'en plus, la peinture, elle était un peu particulière.
C'est une peinture express sol.
Ouais, voilà.
Avec de la glycéro. Donc, pas de l'acrylique. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils font pas encore de... Pour parler technique, de peinture à l'acrylique. Ou alors, il faut mettre de la silice entre deux couches, c'est très compliqué. Mais là, en plus, ça mettait beaucoup de temps à sécher.
Ouais.
Donc, il y avait des contraintes.
C'est vrai, ouais.
Mais
et puis, en plus, ce sol était un petit peu...
Granuleux.
Ouais, granuleux. Oui, donc,
On peut dire que ça pouvait être une tannée.
En fait, tu peux le dire, n'aie pas peur.
Non, mais en fait, souvent, quand on travaille comme ça, sur des grosses surfaces, au sol ou même sur les murs, moi, je le remets toujours des fois à des challenges sportifs.
Ah ouais, bah
c'est
oui.
À la fin du projet, au début, on arrive, on se dit « oh là là », et puis au final, on le fait. Mais c'est quand même des fois physique.
Bah, j'imagine quand tu
quand
t'envoies...
Quand il fait chaud.
Puis une fresque au sol, on dirait « ah bah c'est bien, t'as pas les bras en l'air ». Mais en fait, la peinture fait que, voilà,
non,
que le sol, il est granuleux. Donc voilà, t'es penché, il faut attendre que ça sèche.
Il faisait très très chaud. Je commençais à 6h et je m'arrêtais à 14h. Parce qu'après, il y avait les vapeurs de la...
Ouais, en plus.
Qui remontaient un peu.
Ouais.
Mais c'était un super projet, je me suis régalée.
Ouais, c'est un challenge. Ouais, c'était
puis on aborde l'œuvre différemment, puisqu'en fait, on va pas la voir... elle a plein de sens au final.
Ouais, et vu du ciel, ça rendait trop bien, du coup.
Ouais.
Dans les autres projets, je pense à la fresque que tu as réalisée à l'USIP. C'est un des services de la Colombière. Donc, pour replacer un petit peu dans le contexte, c'était dans le cadre du projet Grande Ampleur, mené avec à la fois le CHU de Montpellier et l'USAP de Perpignan. Donc, toi, tu as fait la fresque à la Colombière. Et de l'autre côté, tu étais à...
Je suis allée dans le... En fait, c'était l'unité de... Le centre de rééducation à Perpignan pour les gens qui ont eu des AVC et des accidents. Et voilà, là, c'était des toiles.
Et puis, il y avait ADEC qui avait fait une fresque au club de la Colombière. Et de l'autre côté, c'était à l'IEM, à l'IME, je sais, jamais de Argelès, si je ne me trompe pas. Et donc, tu as fait cette fresque-là. Donc, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, parce que c'est un endroit particulier. C'est là où on a des adultes qui sont hospitalisés.
En fait, c'est l'unité fermée des hommes.
Voilà.
Qui sont souvent, on va dire, qui sont aussi incarcérés.
Mm-hmm.
Des fois, ils sont emprisonnés et ils ont des troubles psychiatriques, psychotiques, donc ils sont placés
assez forts.
Et en fait, moi, je devais faire une grande fresque qui faisait 28 mètres par 4.
Ouais.
Et dans
un mur d'enceinte, en
voilà,
fait.
Voilà. Et comme dans un grand jardin, mais fermé par des grands murs un peu tristounés, c'est l'endroit où ils sortent pour fumer leur cigarette.
Ouais.
Voilà, donc du coup, j'avais été un petit peu briefée. Mais tout s'est super bien passé. J'étais jamais seule. Il y avait quand même un soignant avec moi.
Ouais.
Mais j'ai jamais eu peur. Mais c'est vrai que c'est une expérience assez dingue. J'ai quand même pu échanger avec eux.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette intervention?
En fait, je me souviens le jour de l'inauguration, il y avait un jeune homme, un Biélorusse, qui parlait pas très, très bien français. On avait échangé en anglais. Et je me souviens, ça m'avait touché parce qu'il m'avait remercié. Il m'avait dit, voilà, quand je sors fumer ma cigarette, en plus, comme j'ai un travail un peu qui est abstrait, qui est onirique, il m'a dit, ça me permet un peu de m'évader et puis de m'imaginer des éléments, des paysages. Et ça lui faisait du bien. Et en plus, j'avais aussi choisi un peu des couleurs, pas des choses qui étaient agressives. Et je pense que ça, de toute façon, après l'art, déjà, on soigne des fois les gens en art-thérapie. Mais là, ça... ça fait du bien. Ça m'est arrivé de faire des plafonds aussi au CHU, c'était à Saint-Éloi, en service gastrologie, avant de se faire opérer.
Ouais.
Et du coup, c'est pas une partie de plaisir. Et au plafond, ça permet un peu de décompenser et de s'imaginer, de partir, de penser à autre chose.
De s'évader un petit peu avant de se faire opérer
ou voilà.
Mais d'ailleurs, c'est un peu aussi ce qui s'est passé, parce qu'on a le projet à Perplanta, du coup, oui. on a une dizaine d'artistes qui sont intervenus. Tu es intervenu deux fois, donc avec la fresque à l'extérieur, le mobilier urbain, et puis une fresque dedans. Et puis là, on a vu directement l'impact positif que ça avait, à la fois sur les patients, c'est sûr, mais aussi sur les soignants, en fait, qui vivent. Enfin, qui vivent ça au quotidien, enfin qui travaillent là-dedans toute la journée et qui sont contents de voir des univers très différents.
Il y a de plus en plus d'art qui vient à l'hôpital, dans des unités pour enfants beaucoup, mais ça se développe de plus en plus. Ça permet d'apaiser, puis je pense que les enfants ne viennent pas par plaisir.
Non, donc c'était déjà ça le challenge, c'était de leur donner envie aussi de venir, parce que ils viennent pour des rendez-vous de soins, c'est jamais très marrant. Et puis ce service, il était glauquissime avant qu'on arrive.
Moi, j'étais
vraiment pas jojo.
Mais j'ai un enfant que j'ai croisé dans un collège à Nîmes, où j'ai fait une fresque dans leur foyer, l'Institut d'Alzon, et cet enfant m'a dit: ah, mais j'ai vu ta fresque, parce que moi j'ai eu rendez-vous dans... Déjà, j'ai trouvé ça chouette
à Perplantade.
Oui, à Perplantade. Et j'ai trouvé ça chouette qu'ils le disent devant la classe, nous deux, lui et moi, on savait pourquoi aller, mais de toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Mais il m'a dit: ah, c'est chouette, parce que du coup, ils y vont et ça crée, je pense, de la détente.
Je sais que une des soignantes me disait que, par exemple, plutôt que de patienter dans la salle d'attente, les gamins déambulent dans les couloirs, ils vont chercher les petits persos d'ADEC, tu vois, disséminés un peu partout. Et puis voilà, le temps d'attente, il passe, ça se fait beaucoup mieux que dans une salle enfermée au milieu des adultes.
Non, c'était un beau projet.
C'était un très beau projet. Il y a dans les supports un peu atypiques, tu as fait une passerelle aussi, la passerelle du Coulazou à Fabregues. Ça aussi, c'était un challenge différent.
Il y avait des contraintes techniques, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, puisque en dessous, il y avait de l'eau, donc on pouvait pas forcément travailler avec une nacelle. Et puis descendre en rappel, c'était un peu compliqué, en fait. Donc j'ai peint la tête à l'envers sur les côtés, et après c'est toujours des graphiquement, ce que j'aime, c'est quand on peut justement utiliser le sol. Des fois on joue avec la couleur des rambardes.
Et justement, comment tu fais quand tu as des volumes comme ça, où c'est pas un mur, c'est pas un sol, c'est un peu un ensemble, puisque t'as aussi peint des rochers, etc. Oui. Comment tu fais, toi, quand on te dit: on te propose ce projet-là, comment tu te projettes sur les motifs, sur la palette de couleurs que tu vas utiliser, tu vois, quelle est ta réflexion?
Souvent, je peux avoir un échange avec la mairie. Si jamais ils ont des couleurs,
un
cahier des charges, une ligne directive. Mais en général, je suis assez libre dans le choix de mes couleurs, quand même, j'ai de la chance. Mais souvent, j'aborde les lignes graphiques. En fait, je vais pas faire un truc dans son ensemble pour peut-être cacher les formes. Moi, je vais les mettre en valeur.
Ouais.
Les tranches, les côtés, s'il y a des barrières, j'adore en jouer là-dessus, en fait.
Ok. Et les couleurs, parce que je vois, par exemple, là, tu as fait des fresques avec nous aussi pour le Novotel. Là, t'es partie, notamment dans la fresque du sous-sol, t'es partie dans quelque chose de très différent.
Je me suis régalée.
Et j'ai trouvé ça trop génial. Mais je me suis dit, waouh, alors là, on parle.
Mais en plus, j'ai tenté parce que le client était pas souvent, quand on dit on va faire un fond noir ou un fond bleu marine,
ça rebute un petit peu.
J'avais eu un projet comme ça avec l'URSSAF, avec le cabinet d'archi Imagine. Et au départ, c'était un bleu marine et un vert foncé. Et en fait, j'ai réussi à leur expliquer qu'en amenant de la couleur par-dessus, ça a amené beaucoup de lumière.
Bien sûr.
Ah, ok, ça peut rétrécir une pièce, mais en fait, là, vu le lieu, le sol qui est extrêmement marqué, moi, j'ai proposé, puis j'avais envie... C'était le Novotel, il y avait déjà du noir, du beige, du laiton. J'avais envie de faire quelque chose d'élégant. Et là, j'ai pu encore plus m'engouffrer dans le plaisir que j'ai avec l'art déco.
Je trouve qu'on y est vraiment à fond.
Et du coup, j'ai pu mixer tout ça. Et c'était vraiment... je me suis régalée. Et en même temps, il y a quelques temps, mon expo à Bordeaux, à la Galerie Magnétique Florida, c'était que des couleurs du rose malabar, du jaune pâle. Mais en fait, ça m'amène dans différents... J'ai pas envie forcément de m'enfermer. Après, il y a des couleurs que
j'affectionne.
Ouais, que j'affectionne. Et d'autres que vraiment, j'arrive pas du tout à mettre. Moi, c'est vraiment une sorte d'alphabet de langage.
Ouais.
Je pense que c'est propre à chacun, à chaque artiste.
Ouais.
Moi, des fois, ça va pas fonctionner. En fait, un peu comme je pense comme une partition, comme si les notes, ça va, pour moi, ça va faire, ça va créer comme des fausses notes.
Ouais, je vois.
Mais là, oui, c'était un beau, c'était, je me suis vraiment régalée, même de partir dans du noir, du beige.
Ouais, mais ça te réussit, et c'est là-dessus qu'on va clôturer cette émission. Merci beaucoup, Noun, d'être venue au micro de Terra Vague. Et puis, merci à tous, merci à Tom, et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.